à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Crème de la Crème qui se déplacera aujourd'hui pour deux discussions à l'Hôtel Pasteur où je retrouverai deux invités de Spéléographie, la Biennale des Écritures, cinquième du nom, qui s'y tient notamment à l'Hôtel Pasteur, mais ça a lieu un peu partout à Rennes, du 22 avril jusqu'au 4 mai. On rencontrera la dessinatrice, illustratrice Lisa Abb et puis l'écrivain Thomas Rosier. À part ça, dans Crème de la Crème aujourd'hui, on ira lire l'album jeunesse avec Sosie Glebaille dans Allez en ligne numéro 59. Aujourd'hui, Oscar et le conte de Jean-Baptiste Drouot. Et puis on écoutera un titre de l'année 2018 grâce à la machine à remonter le son. Et on entendra un extrait de notre disque d'or de la semaine. Et on commence directement Crème de la Crème avec un album que je ne vous avais pas diffusé et pourtant il est fantastique, hein, cet album du duo de Toronto Ducks Limited, un duo qui ne jure que par la pop indie et véloce anglaise des années 80, principalement anglaise, celle des Phillies, alors là je parle d'Angleterre, non, les Phillies c'est américain, mais aussi Talus de la Gauche, Monochrome 7, ça va à fond la caisse leur morceau, et c'est absolument réjouissant, ils seront bientôt en concert à l'Ubu. On commence Crème de la Crème avec ce titre des excellents Ducks Limited, le titre On Our Way to the Rave, bonne émission.
Des missiles sol-sol dans l'aérosol de ton haleine souillée par les glaires. Ta poignée de main fait comme un surin dans la jugulaire. Aérosol, iranienne. Des missiles sol-sol dans l'aérosol de ton haleine. Aérosol.
Mustang, trio d'origine clermontoise qui depuis leur premier pas ont changé de crèmerie. Il me semble qu'ils habitent plutôt du côté de Paris maintenant, Jean Felsine et puis sa bande. C'était le titre Aérosol, disponible depuis le 17 avril en digital. Il annonce un album qui devrait s'avancer toute guitare dehors à partir du mois d'octobre, l'album Méga Phoenix. Le titre qu'on entendait à l'instant figurera sur cet album. On poursuit Crème de la Crème avec un extrait de notre disque d'or de la semaine. Extraordinaire disque, hein, que celui de Benny. Ça s'écrit B2NY, mais je crois que ça se prononce Benny. L'album c'est 1 Million Love Songs et ça nous caresse parfois dans une pop légère et ça s'électrise assez rapidement. On écoute aujourd'hui en extrait de cet album le titre Screaming Dreaming.
I've been dreaming about places that I've never been. Take it back, change my mind.
C'est moi. qui t'ai vu le premier.
I am the psychologist.
Vraiment?
You can hate me as much as you like. But it's you who wants to know things for me.
Passionnant.
Tell me about your past.
Dites-moi davantage.
You are not different from anyone else.
We are passionnant. No, I tell you, yes! Tu veux ma photo?
And your mother? Interesting. Let's try something.
C'est moi qui compte les points. C'est moi qui t'ai vu le premier.
La québécoise Marie Davidson avec The Psychologist à l'instant, titre de l'année 2018 que vous entendez de temps en temps sur Canal B. On l'entendait aujourd'hui dans Crème de la Crème grâce à la machine à remonter le son qui nous permet de revenir sur des titres choisis dans la discographie des années 1960 à 2024. Les années sont choisies au hasard, mais pas les artistes, évidemment. On part à présent du côté de Spéléographie numéro 5 avec deux invités du Labo qui se tient à Rennes pendant quelques jours. Et on retrouve Spéléographie qui est une biennale qui se consacre à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier les écritures dans leurs diverses formes, qu'elles soient artistiques, sonores, spectaculaires, graphiques, graphiques ou littéraires. Elles seront littéraires d'abord avec Thomas Rosier et puis tout à l'heure graphiques avec Lisa Hab. Pendant cette cinquième biennale des écritures spéléographie, je me balade à l'hôtel Pasteur et j'y rencontre des invités, bien sûr, de cette biennale. Aujourd'hui, on va parler avec Thomas Rosier. Donc, vous avez peut-être lu Un monde de salauds souriants. Ça commence très très bien ce roman qui nous présente dans ses premières pages un personnage qui est allongé sur un lit et puis qui contemple la chambre. Il voyage autour de sa chambre peut-être. Et au loin, une noce qui renvoie d'ailleurs à la couverture de Bruegel.
Ouais, c'est la danse de la mariée en plein air de Bruegel. On ne sait pas forcément au début de la lecture que c'est un tableau qu'il regarde, donc dont il parle. Mais c'est bien ce tableau qui est une affiche en face de son lit, là, depuis quelques années.
En commençant les quelques premières pages de ce roman paru chez Actes Sud en 2022, on a l'impression d'un personnage qui observe le monde, parce qu'il commence par observer sa chambre, on pense que c'est ce qu'il fait la plupart du temps aussi, et puis on l'entend un peu amer, peut-être, d'être à l'écart. Alors est-ce qu'il est amer, ou est-ce que finalement il s'est habitué à cet état ?
C'est un personnage qui est en retrait et qui est en retrait par réflexe d'autodéfense, je dirais. Donc qui est pas tellement amer que inquiet et en tout cas fondamentalement inadapté. Comme les deux autres personnages qui interviennent un tout petit peu après dans le livre, qui sont Mélanie et Michel. Mélanie qui est une trentenaire, qui est une universitaire qui a du mal à s'intégrer dans la vie professionnelle, qui est un petit peu un cas commun, et puis surtout à faire concorder ses valeurs politiques et puis les réalités du monde économique. Et nous avons Michel qui est lui une espèce d'entrepreneur flamboyant qui réussit autant dans sa vie économique qu'il est en échec sur à peu près tous les autres plans de sa vie. Et donc ce sont trois personnages qui, chacun à leur manière, ont du mal à intégrer les règles du jeu et à y jouer de manière franche, quoi.
On peut imaginer que ces salauds souriants, c'est pas ces trois personnages du roman.
Non, c'est plutôt c'est un peu ambivalent, mais c'est un bouquin qui traite beaucoup du rapport aux autres et puis des possibilités qu'on a de vivre ensemble ou pas. Et donc les salauds souriants, c'est une expression qui est dans le livre pour désigner le rapport à l'autre dans toute sa complexité. C'est-à-dire que ça peut être à la fois quelqu'un de gênant et de concurrent, en tout cas de malvenu, et en même temps quelqu'un de sympathique, empathique. Voilà, tout ce qui est attirance et haine dans le rapport à l'autre, quoi.
On pourrait imaginer, quand on, comme moi, n'a lu que les premières pages, que le personnage Lucas, qui est le premier personnage qu'on voit entrer en scène, ou pas vraiment d'ailleurs, il n'entre pas vraiment en scène, il est là, il pourrait renvoyer un autre personnage de roman, Ignatius Reilly de La Conjuration des Imbéciles. Alors, est-ce qu'il y a des points communs quand même entre ces deux personnages de roman là ?
C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, La Conjuration. Ignatius a un côté très flamboyant, très sûr de lui, très très à la ramasse, mais voilà qui pose son univers et qui le fait vivre. Lucas n'en est pas là. Peut-être ça pourrait être un idéal pour lui, mais il n'a pas cette aisance sociale et verbale. Et plus on va au trait. C'est quand même à sa manière un marginal. Donc comme Ignatius dans la Conjuration des Imbéciles, qui est vraiment un roman picaresque de marginaux de la société qui traverse un petit peu tous les milieux. Il y a aussi de ça chez Lucas, qui va évidemment rencontrer Mélanie et Michel, qui ne sont pas dans les mêmes strates, ni les mêmes milieux sociaux ou culturels. Et chacun va faire bouger les autres à sa manière. «
Ce monde de beaux souriants, c'est pas vos premiers pas en littérature, c'est le premier roman publié, il y a eu quoi avant ?
Avant, j'ai fait quelques petits textes dans des fanzines stéphanois, parce que j'ai grandi par là-bas, vers Saint-Étienne. J'ai fait un livre aussi qui s'appelle Overground, avec un pote photographe qui s'appelle The, qui a bientôt 20 ans, qui était un livre plutôt de photos sur le monde de la marge, les punks, les teufs, la communauté hippie. Une traversée d'une certaine marge, une certaine vision. C'était très rigolo à faire. J'ai toujours eu ce goût de la fiction, du coup, de la transformation du réel, ou en tout cas la mise en forme du réel par la fiction, qui m'est resté. Et puis ce premier roman, au bout d'un moment, j'ai eu envie de me relever les manches, parce que le premier n'était pas vraiment un roman, c'était plutôt une grosse nouvelle. Et j'avais eu... comme l'envie d'aller au bout du truc, quoi. Soit ça marchait, soit ça foirait, mais en tout cas d'avoir fait ça dans ma vie, là, d'être allé au bout de quelque chose. J'ai trouvé ça vachement rigolo à faire, quand même. Vachement fun. C'est très libre, le roman. C'est très libre.
Bon, la marge, je sais pas que c'est peut-être Godard qui disait ça. C'est ce qui tient les pages.
Ouais, la marge définit la page, hein, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Mais c'est très vrai. C'est toujours la marge qui fait le reste de la page, et puis la marge finit toujours par passer dans la masse, entre guillemets. C'est plus un flux qu'un endroit. Bon, maintenant j'ai un peu vieilli, je suis un peu plus loin de tout ça, et c'est bien aussi, je pense que... C'est moi-même, je suis pris dans un flux et il faut accepter ça. Mais c'est en tout cas des endroits bouillonnants et des endroits très, très parlants sur le monde tel qu'il va.
Les personnages du roman sont des anti-héros, je pense qu'on peut le dire. C'est plus intéressant d'écrire sur les anti-héros.
Je ne sais pas si c'est plus intéressant, moi ça m'intéresse plus en tout cas. Et ça m'intéresse plus parce que ça met en œuvre des fractures, des fêlures, des refus. Et donc il y a des tensions, parce que c'est forcément des gens qui ont une petite distance avec le monde avec lequel dans lequel ils vivent. Et donc ça devient intéressant. Ça devient matière à fiction, ça devient matière à tension, ça devient matière à difficulté. Et je pense qu'on a tous ces expériences-là, même plus intégrées des gens. Sur l'idée d'adaptation, en l'occurrence, il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit, voilà, qui se retrouvaient dans ces moments où ils se retrouvent dans des milieux, des situations où ils ne se sentent pas du tout à leur place. Et donc, j'aime bien gratter ces petits endroits de dissonance. C'est ce qui me plaît.
On peut imaginer peut-être que le roman sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, alors un roman ou en tout cas le texte que vous travaillez en ce moment, ne nous parlera pas de gagnant à la bourse, de top modèle aux Bahamas, et qu'on continuera dans la découverte, l'évocation de personnages un peu à la marge aussi.
Oui, c'est pas forcément le personnage principal du roman en cours, c'est un charpentier qui va faire un chantier... un peu loin de chez lui, qui vit en caravane comme ça, et qui fait un chantier où il se retrouve un peu dépassé, pour le coup. Peut-être pas inadapté, mais dépassé. C'est une autre sensation que j'aime bien, qui quand même arrive souvent à notre époque, je trouve, ce sentiment d'être dépassé, d'être un petit peu largué. Et donc voilà, j'essaie de construire une histoire autour de ce gars-là qui va faire de la charpente et qui est dépassé par les lieux, par les événements et par son voisinage. Et donc dans quelque chose de très périphérique, oui, de toute façon.
Dans les premières pages de Un monde de salauds souriants, on voit un détail précis à chaque phrase, en fait. On voit dans la chambre de Lucas tel petit objet qui est toujours là depuis longtemps, tel objet qui est tombé derrière, on sait qu'il est là, mais on va pas changer pour autant sa place. Ce côté entomologique comme ça dans l'écriture, ça se retrouvera aussi dans le prochain texte.
Alors là, Lucas, il y a quand même beaucoup de temps pour observer sa chambre qu'il connaît par cœur. Donc il y a une connaissance assez exhaustive de ce qu'il fait. Et je voulais dans ce livre vraiment qu'on arrive à rentrer dans la tête des gens. Et donc lui, voilà, il se fait ce petit exercice là de passer en revue tous les détails de sa chambre mentalement, en fermant les yeux. Mais il y arrive assez bien. Dans le prochain roman, c'est de travailler sur des accumulations, des listes, des espèces de fantasmes, un peu d'exhaustivité comme ça. Enfin, en tout cas. Peut-être la tension entre l'exhaustivité de faire une liste puis d'arriver au bout, et puis là on a tout décrit, donc c'est bon, le réel tient dans un paragraphe, et en même temps le fantasme qui est plus un truc de scroll d'abondance infinie, quoi. On peut toujours scroller, on n'arrivera jamais au bout de la page, c'est un fond qui n'existe pas vraiment. Je trouve ça intéressant ce petit paradigme là entre le fantasme d'une exhaustivité, d'une liste complète décrivant tout, d'un épuisement d'un lieu, comme dirait Pérec, hein, et puis l'épuisement impossible, le renouvellement continu, le truc du scroll, vraiment le scroll, la navigation internet, l'hypertexte qui était un dédale sans fin, quoi. J'aime bien ça.
Cette présence, Thomas Rosier, ici, à Spélographie, elle est loin du scroll sans fin. On est plutôt dans quelque chose de petit, de taille humaine. Qu'est-ce que vous faites ici à Spélographie, en fait ?
Eh bien, l'idée de Spélographie, c'est de faire se rencontrer les gens, je crois, d'abord et avant tout, qui viennent d'horizons différents, qui ont des pratiques différentes, qui ont des profils différents, qui ont des envies différentes. De les mettre dans une grande marmite comme ça, et puis de les mettre à feu doux, en remuant de temps en temps, mais pas trop fort, et de voir ce que ça donne. Et c'est très chouette, c'est un cadre très libre, qui effectivement donne la possibilité à chacun de se rencontrer, et de poser des petites graines comme ça, des germes, certaines qui vont fleurir peut-être dans la semaine, d'autres peut-être beaucoup plus tard, d'autres peut-être sous d'autres formes, mais qui sont des chouettes rencontres en tout cas. Puis un cadre vraiment privilégié.
Ce labo à court en ce moment, vous aurez droit peut-être à l'ouverture des portes du labo, non c'est pas peut-être, c'est sûr, samedi, et vous aurez accès à un véritable cabinet de curiosité, et je le dis au sens propre parce qu'on est vraiment dans cette pièce ici de l'hôtel Pasteur, dans ces vitrines avec ce bois qui craque, on est un petit peu hors du temps en fait. Alors on ne sait pas encore ce qui va y être déposé dans ces vitrines là, puisque ce qui se passe au labo reste presque au labo comme à Las Vegas, sauf que non, il y aura vraiment une restitution. Mais avant ça, vous aurez l'occasion d'entendre une lecture de ce roman Un monde de salauds souriants par Thomas Rosier lui-même, avec un accompagnant spécial.
Oui, Benjamin Pierrat, qui fait de la musique, qui crée des sons électroniques sur une boîte à samples, quoi, tout simplement, et qui part de nappes assez bruitistes pour arriver sur la techno dansante un peu dégoulinante, j'adore. Donc voilà, c'est une lecture évolutive. Mais je vous invite à effectivement venir voir le cabinet de curiosité et le travail de mes petites camarades qui sont plutôt sur le visuel, pas tous, mais beaucoup, et il y a beaucoup de choses à voir, super intéressantes.
On prendra des nouvelles de Thomas Rosier sur la sortie du prochain roman, qui aura aussi une couverture de Bruegel ou pas ?
Je sais pas, peut-être on va changer de veine quand même, peut-être quelque chose de plus contemporain. J'espère que mes petits camarades ne m'en voudront pas d'avoir pris un auteur mort et libre de droit. Mais il faut savoir penser à la création contemporaine, parce qu'il y a quand même plein de choses aussi.
Dans cette balade à l'hôtel Pasteur au deuxième étage, je rencontre Lisa Albe maintenant, dont vous verrez quelques planches sur un mur, très colorées, très joyeuses. Et pourtant, est-ce que c'est si joyeux que ça? Je ne sais pas, quand je vois ce dessin devant moi et ce personnage qui semble être peut-être la petite nièce d'Agrippine, je ne sais pas quel âge elle aurait Agrippine aujourd'hui, le personnage de Claire Bretécher. C'est plus possible, c'est mauvaise nouvelle, il faut agir. Elle est allongée sur un canapé et elle lit Le Monde diplomatique. Est-ce que Lisa Albe, vous vous voyez un petit peu comme une sorte d'héritière à la fois d'Agrippine, le personnage, et puis de Bretécher, la dessinatrice?
Eh ben oui, évidemment. En tout cas, une héritière de tout ce qu'elle a construit et tout ce qu'elle nous permet aujourd'hui de faire, autant dans les sujets que dans la liberté du trait. Oui, complètement.
La différence, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de couleurs sur vos dessins, pas tous, hein. Il y en a en noir et blanc ici aussi. On voit une attention particulière à quelques sujets nécessaires. Je crois qu'il y a quand même beaucoup question de féminisme dans votre travail.
Voilà les sujets du moment, évidemment, de féminisme, de vie rurale, de féminisme quand on habite une zone rurale, de polyamour, de LGBTQI, de plein de choses, de jardin, de potager, de yoga. Voilà, tous ces sujets qui se mêlent et s'entremêlent, qui ne sont pas un seul sujet. Mais... Et puis, l'actualité, évidemment.
On a l'impression, à chaque fois, enfin dans beaucoup de dessins, de voir des bandes de copines comme ça qui nous disent ce qu'on n'entend pas assez peut-être quand on n'est pas une femme et quand on n'est pas dans la voiture qui emmène ces femmes-là à leur destination, en disant que oui, il y a parfois des groupes de mamans qui lancent des structures de garde d'enfants, mais il n'y en a pas souvent de papa, par exemple. Et puis il y a cet autre dessin là, qui montre une personne comme ça qui nous parle de tous ces mots en isme, tous ces mots anglais qui commencent par mail ou par men's, quelque chose, et puis tous ces mots avec le suffixe phobie. Elle se prépare pour aller à une soirée féministe. Pas mal d'ironie.
Oui, de l'autodérision, c'est la clé. Il faut beaucoup d'autodérision dans ce monde. Et bon, il y en a, hein, mais peut-être pas encore assez. En tout cas, j'ajoute ma brique, on va dire. Et oui, je fais beaucoup parler les filles et les femmes en général parce que, bon, bah peut-être parce que je suis une femme tout simplement, et aussi parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire des bandes dessinées que j'avais tendance à faire des personnages masculins. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ça, Lisa. Tu t'es plaint qu'il n'y ait pas assez d'héroïnes, petites filles, donc c'est pas pour continuer dans le schéma. Donc maintenant, assez automatiquement, mes personnages sont majoritairement féminins. Voilà. Bon, il y a des gars aussi, hein. Il y a toutes sortes de personnes, mais quand même, la plupart.
On peut être aussi proche d'un univers, d'une de vous contemporaine. Je pense à une autre Lisa Mandel peut-être. Est-ce que vous voyez des rapports, des connivences possibles avec elle?
Eh ben oui, carrément, dans la BD documentaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu Lisa Mandel au moment où elle ouvrait la BD documentaire humoristique. Je pense à HP, notamment, quand elle avait fait cette BD, ça m'avait beaucoup marqué. Surtout que j'avais travaillé dans un EHPAD à l'époque, donc ça m'avait d'autant plus parlé. Et oui, la BD documentaire mêlée à l'humour, mêlée à la fiction, docu-fiction, tout ça, ça me parle.
On va parler peut-être de ce qui vous occupe en ce moment, parce qu'il y a quelques one-shots comme ça, des strips ici, des petits dessins. Ça n'a pas été édité encore, véritablement, en tout cas pas en album, c'est sûr. Là, vous êtes sur la finition, ou on n'est pas encore arrivé à cette étape d'un premier album?
Ici, je suis sur la réflexion de l'histoire complète, et j'ai signé avec un éditeur. C'est Rivage Graphique et ce sera édité dans un an et quelques, donc pas tout de suite, tout de suite. Donc je suis vraiment à l'étape, la première étape d'écriture du storyboard. Et progressivement, ça va être le dessin, mais et ce sera mon premier album. Et tout ce qu'il y a dans l'exposition, c'est plutôt des choses que je fais pour Instagram, parce que j'aime bien que ça finisse quelque part. J'aime bien que ça puisse être lu. Et Instagram, même si on, personne, enfin moi, je suis pas la première fan d'Instagram, mais c'est là que les gens sont, donc autant y aller aussi. Et puis des expositions de dessin que je fais aussi pour le coup du dessin contemporain hors réseaux sociaux, etc. Là, vraiment pour les expositions.
Vous vivez en Ardèche, ça tombe bien, il y a un échange comme ça d'artistes hein, qui vont passer de l'Ardèche à Rennes et puis de Rennes à l'Ardèche grâce à Spéléographie. Il y aura quelques événements à Aubenas d'ailleurs d'ici 15 jours il me semble. On va arriver à cet album-là et à comment l'endroit où vous vivez l'a nourri.
Et ouais, merci Spéléographie, ça nous permet de sortir un peu mon cul de la campagne et de venir à la ville, la grande ville de Rennes, parce que c'est vraiment la ville par rapport à chez moi ici, et de rencontrer des nouvelles personnes ici à Rennes qui vont venir après en Ardèche. Donc la résidence croisée, ouais, c'est, bah, pour moi c'est super. Enfin c'est la liberté totale de créer pendant une semaine dans un endroit nouveau avec des gens que je connais pas. Donc c'est super.
Vous êtes arrivé en Ardèche pour y dessiner ou il s'est passé quelque chose d'autre avant?
Si, effectivement, je suis arrivée en Ardèche avec des copines dans l'idée de pas payer trop cher de loyer et de vivre un peu de manière modeste et en créant des choses. Il y en avait une, elle était sculptrice, elle est toujours d'ailleurs, et l'autre qui était marionnettiste et qui est aujourd'hui céramiste. Et nous, on a emménagé dans cet endroit-là. Moi, je ne connaissais pas l'Ardèche, vraiment pour avoir du temps libre et pas subir la pression d'un travail comme ça pourrait être le cas dans un endroit où on doit payer un loyer très cher, etc. Après, on était roots, hein, donc disons qu'on n'avait pas peu de besoins. On vivait d'amour et d'eau fraîche à ce moment-là. Vraiment la caricature de l'ardéchoise. Et aujourd'hui, je vis un petit peu mieux et je vis un peu plus de mon travail. Donc j'ai bien fait d'emménager en Ardèche, comme quoi.
Premier album, j'ai pu revoir juste un dessin comme ça, où est-ce que c'est une ébauche qui évoque ce que va être cet album, où on voit un personnage, vous sans doute, dans un chemin, et puis derrière des chasseurs, ah c'est vous qui venez de vous installer près de chez nous. Alors j'imagine qu'on aura droit à des tranches de vie vraiment vécues entre Lisa Albe et puis ses voisins chasseurs. Ça se passe comment, en fait, quand on a beaucoup de chasseurs autour de soi, alors qu'on est soi-même pas trop, trop fan de la chasse, a priori, même si...
Bah, c'est de ça que parle le bouquin, justement, de comment on vit dans une zone rurale. Moi, j'habite dans un village de 200, 300 habitants. En hiver, hein, évidemment, en été, on a le grand plaisir de voir débarquer toutes les résidences secondaires. Donc, mais bon, en hiver, on est quand même peu d'habitants et quelques chasseurs, évidemment. Et une grosse partie du village qui ne chasse pas, que ce soit des natifs ou des néos, une grosse partie de villageois ne chasse pas. Et comment ça se passe? Ben alors moi, j'avais envie de traiter le sujet de manière drôle. J'essaye de pas verser dans la caricature, mais j'avoue, c'est difficile. Bon, mais voilà, comment ça se passe? Comment ça se passe pour les balades? Comment ça se passe au bar? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Voilà. Et je vais pas trop en dévoiler parce que je suis dans l'écriture du scénario, mais alors je peux raconter des anecdotes, mais je sais pas si c'est très intéressant maintenant.
Est-ce que vous en profitez, en étant à Rennes, pendant Spéléographie, pour aller faire un tour aux abords et aller voir comment ça se passe, la vie entre les habitants de la presque campagne autour de Rennes, et puis les chasseurs?
Alors moi, je reste cantonnée à Rennes, là, pour le coup, mais je suis quand même allée dans tous les parcs de la ville, je crois, pour dessiner des arbres, comme quoi, et un petit peu dans la ville aussi, hein, bien sûr, pour boire des cafés. Et là, du coup, pendant la résidence, j'essaye d'imaginer quelles sont les limites de la nature par rapport à la ville, Et à propos de la chasse, je mets de manière absurde des chasseurs au milieu de la ville qui attendent le sanglier ou le chevreuil, ça dépend.
Suivant cet adage, ce qui se passe au labo reste au labo. Normalement, on aura quand même une restitution avec l'ouverture du cabinet de curiosité samedi ici à l'hôtel Pasteur. Mais quand même, quelques mots, Lisa, sur les échanges peut-être qui ont déjà commencé à avoir lieu entre les différents participants et participantes de Spéléographie.
Eh ben, on commence à se connaître tout doucement. On n'est pas très nombreux, on est 6-8, je ne sais plus. Et moi, je connaissais pas grand monde, 20 personnes en fait d'ailleurs, si à part Thomas. Mais les échanges commencent tout juste à se faire. On s'était dit qu'on dessinerait ensemble un abécédaire. On va faire du water polo demain. Aujourd'hui, on va faire du water polo, gros échange artistique. Là, c'est ça qui se passe en ce moment.
On vous retrouve ici à l'Hôtel Pasteur vendredi soir. Il se trouve que vous dessinerez en compagnie de deux dessinatrices, sans voir ce que font les autres. Vous avez déjà fait cet exercice-là, dessiner sans voir autour de soi. J'imagine, oui, au bureau, comme ça, à la table, mais en public.
Ouais, c'est même moi qui avais proposé le concert dessiné. Et du coup, ce sera avec Laura Park et Magali Arnal. Et on sera toutes les trois au dessin. Et moi, j'adore. Par contre, j'ai un trac fou, évidemment, parce que d'habitude, je suis toute seule dans mon bureau et je peux bien me louper, c'est pas grave, tout le monde s'en fiche. J'ai un trac fou, mais j'adore ça quand même. Enfin, c'est un échange avec le public que je trouve vraiment gay, et c'est beaucoup d'improvisation. Enfin, j'adore, quoi. Ça va être bien. Venez.
Venez donc vendredi 26 avril à 18h. Merci, Lisa.
Merci.
Toutes les infos autour de Spéléographie, la Biennale des Écritures numéro 5, à retrouver sur spéléographie.fr. Et puis, retrouver aussi des siestes musicales concoctées par les invités de la Biennale. Vous avez pu déjà entendre celle de Double Bob, qu'on retrouvera demain, d'ailleurs, lui. Et puis aussi celle de Magali Arnal. Ah, retrouver jeudi celle de Thomas Rosier, qu'on écoutait tout à l'heure. À suivre, pour terminer, Crème de la Crème aujourd'hui, la chronique littéraire de Soisig Le Bay, Allez, on lit, numéro 59.
Allez, on lit. Allez, on lit, les chroniques littérature jeunesse par Soisig Le Bay sur Canal B.
Aujourd'hui dans Crème de la Crème, comme le mercredi d'habitude, eh bien on retrouve Soisig Le Bay. Bonjour Soisig.
Bonjour Yann.
Pour nous parler livre aujourd'hui, un album jeunesse pour les enfants, mais qui peut le lire autrement? Tout le monde, évidemment. C'est Oscar et le Comte par Jean-Baptiste Drouot, paru aux éditions Les Fourmis Rouges.
Un album pour les enfants jeunes, mais alors je ne sais pas quel âge cela désigne, enfants jeunes. Dans un pays lointain, dans son château protégé par de gros murs, le terrifiant comte Crocula a jeté un sort sur le village de Klopek. Depuis, cette malédiction proférée par le comte contre ses habitants, il pleut jour et nuit sans jamais une éclaircie sur le village. Pour les habitants chats, c'est un véritable supplice. Ils n'en peuvent plus. La seule façon de briser ce sortilège est qu'un villageois sorte victorieux d'un affrontement avec l'affreux Crocula. Le plus beau chat s'y est collé, ça n'a pas marché, on ne l'a jamais revu. Le plus fort y est allé en bombant le torse, même sanction. Rien n'a changé, il n'est pas revenu non plus. Le plus intelligent alors? Mais oui, bien sûr, il saurait déjouer les pièges du comte. Eh ben non, il n'a pas su. Et il a disparu aussi. Plus beaucoup de volontaires au village, on les comprend. Alors les sages organisent un tirage au sort en s'excluant de la liste des participants, ils sont pas fous. Et ô surprise, c'est Oscar, le marchand de fromage en faillite, qui n'est ni le plus beau, ni le plus fort, ni le plus intelligent, qui est désigné pour être le prochain adversaire de l'immonde Crocula. Nouveau venu au village, il n'a pas de parents ni d'amis, et s'il rate, il manquera à personne. Un anti-héros en somme. Ouais, mais Crocula n'est pas un matou effrayant, mais une souris, même pas grande. Attention, pas n'importe quelle souris. Une souris insoumise, puissante et bien décidée à mater tous ses matous. Et d'ailleurs, elle a décidé qu'elle épouserait le meilleur d'entre eux. Sa seule faiblesse, elle adore le fromage. Ah, ces deux-là se sont bien trouvés. Sauf que... Ah, quelle histoire, loufoque, drôle. Les codes du conte classique sont chamboulés, les forts sont faibles, les moins que rien se débrouillent fort bien, les tyrans ne sont pas si effrayants qu'on ne sait comment les manipuler. C'est un album ludique, la couverture est toute douce. La mise en page alterne l'image pleine page et le texte facile à lire à voix haute, c'est élégant, c'est aéré. Le signe pour moi d'un bon album, c'est lorsque l'adulte qui le lit prend autant de plaisir que l'enfant qui le regarde et qui l'écoute. Et ici, la mission est accomplie et le plaisir partagé. Après avoir suivi des cours d'art appliqués, Jean-Baptiste Drouot est devenu illustrateur et graphiste. Il adore l'humour absurde, on l'a compris, et il fait confiance à l'intelligence des enfants.
Eh bien, vous ferez comme lui, j'espère, et puis vous le lirez aux enfants jeunes autour de vous, mais comme tu le disais, on ne sait pas quel âge cela désigne. Oscar et le Comte, donc par Jean-Baptiste Drouot, aux éditions Les Fourmis Rouges. On se retrouve bientôt, bien sûr, dans Crème de la Crème. Merci, Soisig.
À bientôt.
C'est avec un ancien titre de Mills, alias Bertuf, que j'illustrais cette chronique Allez, on lit numéro 59. C'est la fin de Crème de la Crème. On se retrouve jeudi à nouveau du côté du labo de spéléographie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !